Vous n'avez pas de temps à perdre pour vérifier dans leurs livres, mais enfin, si vous voulez, allez vérifier. Ça, c'est le christianisme. L'islam, c'est une toute autre sensibilité de la quête de salut. Je vais vous le dire très rapidement, mais nous ne sommes pas du tout familiers à cela. Pour le musulman, la chute, ce n'est pas la faute, comme chez le chrétien. La chute, c'est d'être tombé dans le monde du nombre, dans le monde de la multiplicité. On est tombé du un au multiple. Et dans le nombre, dans le monde de la multiplicité, vous savez que les musulmans sont, c'est pas le mot, mais enfin, sont, j'allais dire, obsédés, une obsession chez eux, par la notion de l'unique. Et donc le salut, c'est être sauvé du nombre, être sauvé de la multiplicité. Tout ceci peut être retraduit en vocabulaire traditionnel juif, mais je voudrais le catégoriser. Vous avez des traditions qui pourront vous dire que le salut, c'est être sauvé dans l'ennui. Par exemple, dans certaines mystiques extrêmes orientales, l'enfer, c'est l'ennui. On ne peut pas penser qu'il faut être sauvé de l'ennui. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a eu énormément de traditions humaines différentes qui cherchent, au fond, à exprimer cette quête d'être sauvé de quelque chose. Mais, en fin de compte, il s'agit d'être sauvé de quoi ? Il s'agit d'être sauvé de la condition de créature, qui est une condition d'exil par rapport au Créateur. Ça, je pense que vous comprenez simplement. Dès que l'identité humaine prend conscience d'elle-même, elle prend conscience d'elle-même dans la solitude et dans l'éloignement de l'essentiel. Alors c'est de ça qu'il s'agit d'être sauvé. Alors tout ceci est refoulé, est entré dans l'inconscient. Mais ça travaille dans la quête de l'espérance du salut, dans toutes les traditions. Et voilà qu'on rencontre un peuple dont l'histoire porte le témoignage que d'exil, on peut sortir. Et c'est ça le sens strict de la Géoula, de sortir de l'exil. Nous sommes une tradition qui accomplit la Torah au niveau des mitzvot ma'asiot. Ce n'est pas symboliquement qu'on accomplit la Torah. On accomplit la Torah réellement. Et par conséquent, lorsque la Torah parle de l'espérance de la Géoula, ça veut dire réellement l'espérance de la fin de l'exil. Et qu'est-ce que c'est l'exil ? C'est d'habiter en dehors des rêves d'Israël. Les choses ayant le sens simple. À partir de là, vous pouvez extrapoler tous les poèmes que vous voudrez, ça reste des poèmes. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Alors, voilà donc quel est le poème. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'a dit le peuple au pied du Sinaï ? Comment on entend cela d'habitude ? Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. On entend d'habitude, et ce n'est pas faux, que le peuple a accepté ce que Moïse vient de leur dire. Mais si on voit la suite du chapitre, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Lorsque Moïse rapporte à Dieu cette réponse du peuple, tout ce que Dieu dira, nous le ferons, ou tout ce que Dieu a dit, nous le ferons, ça peut se lire de cette manière. Ou même d'une troisième manière, même en présent, quand la chair libère, on peut lire ce que Dieu dit, nous le ferons. Et c'est vraiment l'expression de l'acceptation du projet de Dieu pour l'histoire d'Israël. À ce moment-là, Dieu dit, puisqu'il en est ainsi, je vais me révéler à eux de telle sorte qu'ils m'entendent te parler et qu'en toi aussi ils aient foi. C'est clair. Ça veut dire donc que lorsqu'ils ont dit ce que Dieu dira, nous ferons, il y avait un sens sous-entendu que Dieu lui-même le dise. Est-ce que c'est clair? Là, je dois encore ouvrir une parenthèse. Je crois que c'est à la gloire d'Israël de réclamer la validation d'un message. Ça veut dire, jusque-là, il y avait en Israël une tradition. On était en exil en Égypte. Et la foi d'Israël en Égypte, avant que Moïse n'apparaisse, c'était la mémoire des promesses faites aux patriarches que cet exil prendrait fin. Regardez tout ce que Dieu a dit aux patriarches, c'est quoi ? Trois choses. Confirmer qu'il y aura une descendance. Confirmer que cette descendance sortira d'exil et qu'elle recevra un message de vérité. Trois choses. Le peuple, la Torah et la terre. Dieu n'a jamais dit autre chose aux patriarches. Et tous les théologiens qui s'inventent une théologie métaphysique de ce que Dieu aurait dit aux patriarches, ça ne savent pas de quoi il parle. Il faut lire le texte comme il est écrit. Lorsque Dieu s'est révélé aux patriarches, c'est pour trois promesses. Qu'il y aurait une descendance, que l'exil prendrait fin et qu'on rentrerait au pays des Hébreux. Il n'y a pas d'autre message dans la foi d'Israël avant que Moïse n'apparaisse. C'est clair ? Alors je vais le dire en termes contemporains. Quelle était la foi des Hébreux en Égypte ? Ce qu'on appelle en termes simples aujourd'hui le sionisme. que l'exil prendra fin. Relisez les textes de tout ce que Dieu a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous ne trouvez jamais autre chose. Et moi, je passe mon temps à me demander d'où les gens inventent ce qu'ils inventent. Il n'y a jamais autre chose dans le texte. Et puis voilà donc quelle était la foi d'Israël à la sortie d'Égypte. Et voilà comment il leur dit, eh bien, il y a une vocation universelle qui vous attend. Il va y avoir une Torah. Une Torah, c'est quoi? La charte d'un peuple de prêtres pour être prêtre pour l'humanité. Je crois que j'ai dit ça trop rapidement tout à l'heure. Mais je reviens. Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des prêtres de l'humanité. J'ai souvent entendu des gens, en toute bonne foi, dire « Nous sommes un peuple de prêtres. » En attendant, nous sommes un peuple qui a des prêtres. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a même des archives prêtres. En tout cas, ça veut dire que cette vocation a été différée. Pour quelle raison? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour deux raisons différentes. D'une part, que le peuple n'était pas encore apte à cela. L'indice a été la faute du veau d'or. Et deuxièmement, le refus des nations. Donc c'est là que je raccroche. Alors je reviens à ma question du début. J'espère qu'on va pouvoir embrayer. Comment comprendre qu'il fallait que ce peuple ait des prophètes, et en particulier Moïse? Pourquoi il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit le porte-parole de ce que je demande pour le peuple? Ça y est, maintenant la question est claire? Ben, la réponse est très simple. C'est parce que le peuple n'est pas encore au niveau où il est capable de cela. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï, justement. La réaction du peuple au Sinaï, c'était d'une part, encore une fois, c'est à leur honneur d'avoir réclamé que Dieu lui-même habilite ce que Moïse venait leur proposer comme nouveau message, si j'ose dire, je voudrais pas dire Nouveau Testament. Et puis, dès qu'ils en ont eu la preuve, alors ils ont dit, parle-toi, nous savons que c'est vrai ce que tu as dit. C'est clair. Bon, alors la réponse est très simple. Ce n'est qu'à la fin des temps que l'ensemble des créatures sera capable de supporter, de porter, de vivre de face à face avec le Créateur. Le rendez-vous, la théophanie, comme disent les théologiens, le rendez-vous avec Dieu, c'est pour la fin des temps. Avant cela, c'est dangereux pour tout le monde, sauf pour ceux qui le méritent déjà. Est-ce que c'est clair? Et ceux qui le méritent déjà, c'est cela, d'une certaine manière, hein, les prophètes. C'est-à-dire Moïse, en ce temps-là, est déjà l'homme de la fin des temps. Alors il peut, lui, parler face à face avec Dieu, mais pas les autres. Et c'est pourquoi c'est lui qui est choisi pour porter la parole de Dieu aux autres. Voilà, vous avez la réponse à la question. C'est clair suffisamment? Et alors, je continue dans la lecture du verset. Je vais mettre en évidence la grandeur de Moïse dans ce que nous avons dit. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi une terouma. Comme je l'ai indiqué, le texte ne dit pas ce que Moïse devait dire aux enfants d'Israël. Alors, je vais le schématiser de la manière suivante. Parle aux enfants d'Israël. Ce que tu as à leur dire, c'est toi qui le sais. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as à leur dire pour obtenir le résultat que je cherche, c'est que tu n'es pas Moïse. Donc, parle aux enfants d'Israël. Et que le résultat soit, une fois que tu leur as parlé, qu'ils m'apportent une offrande. Vous avez bien suivi dans la traduction? Alors, je reprends l'hébreu. Vous voyez pourquoi il y a un futur. D'abord, le béni Israël, veïkhu elecha. Je vais essayer de vous donner une nuance de sens. Ce qu'on appelle un chidouche, si vous voulez. Parle aux enfants d'Israël et je te promets, ça réussira, ils t'apporteront. Bon, mais ça c'est déjà un sens supplémentaire. Il faut d'abord lire le sens de base. Parle aux enfants d'Israël et que le résultat soit qu'ils t'apportent. Voilà, c'est clair jusque-là? Bon. Alors, quel est le problème qu'il y a derrière? Le problème qu'il y a derrière est extrêmement important. C'est que Moïse est chargé de révéler la Torah auquel les enfants d'Israël doivent obéir. Mais on va apprendre de cet exemple que l'obéissance des enfants d'Israël n'aura de valeur que si c'est par eux-mêmes qu'ils réalisent ce que la Torah demande. Pas parce que la Torah leur a été imposée, parce que ça vient d'eux. Je le dirai de différentes façons jusqu'à ce que je sois sûr que ce soit clair. Lisez-le en hébreu. Mais kolish asherit debel libo tikro et terumati. C'est de la part de tout celui que son cœur l'a porté à donner une offrande que vous prendrez l'offrande. Alors je le formule de cette manière. Moïse ne peut pas leur dire « apportez une offrande ». Parce que si Moïse leur dit « apportez une offrande », c'est pas de même qu'ils l'ont apportée. Or, qu'est-ce que demande le verset ? Qu'on ne prend l'offrande que de celui qui l'apporte de par lui-même. Alors oui, la difficulté de la tâche de Moïse. Il faut qu'il s'arrange à donner à ce peuple une éducation telle que le résultat soit que le peuple veuille ce que la Torah veut. Est-ce que c'est clair ? Alors je crois qu'ici se dévoile quelque chose d'extrêmement important concernant la transmission de la Torah. On est habitué à l'idée que la Torah doit être imposée. Et bien c'est une toute autre stratégie qui apparaît là. Voilà, je voudrais être sûr que c'est bien compris ce que j'ai dit là. Okay ? Vous voyez la grandeur de Moïse. Il doit faire que le peuple veuille par lui-même ce que la Torah leur réclame. D'autre part, on étudie cela. Et pas tout le monde est à ce niveau d'autonomie de la conscience morale. Et alors, même si quelqu'un a réalisé ce que la Torah veut parce qu'on lui a imposé, c'est déjà valable. Mais ce n'est que déjà valable. C'est pas encore vraiment l'ishma. Je vais le formuler d'une autre manière, vous me direz si je me suis fait comprendre. Quelqu'un qui dit « je fais ça parce que la Torah le veut », c'est kasher. Mais c'est pas encore ça que la Torah veut. Ce que la Torah veut, c'est « fais cela parce que toi tu le veux ». Tant que c'est pas à ce niveau-là, c'est pas l'ishma. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là ?
Le problème du homme qui a violé le Shabbat central et qui a été lapidé.
Attends, comment tu relis cela ? Explique-moi.
Oui, je comprends ce que tu dis, que la Torah, il faut que ça vienne. Le but de la Torah, c'est que ça vienne de nous-mêmes. Mais dans le cadre de la Torah, à un moment donné précis, quand Sotra a violé le Shabbat, on l'a violé pour bien faire l'exemple.
Oui, j'ai compris. Vous avez compris l'exemple ? C'est-à-dire, voilà, non, c'est important comme question. C'est que la Torah nous donne, en particulier dans ce récit, une indication importante. C'est que si on ne pratique pas la Torah, c'est grave, puisqu'il y a des sanctions. On nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a violé le Shabbat et qui a été puni. Bon. Ça veut dire, je vais raconter une autre histoire, d'une autre manière. Je me souviens d'ailleurs de qui j'ai entendu ce midrash. Figurez-vous qu'il y avait un jour quelqu'un qui s'est perdu dans la forêt. Et puis alors, il était perdu dans la forêt. En fin de compte, il fit une rencontre miraculeuse, quelqu'un qui savait se guider dans la forêt. Et alors, il lui dit, voilà, tu passes par là. Et après, tu passes par là. Là, fais attention, il y a un trou. Alors, contourne. Et tu prends ce chemin. Et puis là, bon, bref. Et puis, en fin de compte, il arrive à la lisière de la forêt. Il est sorti de la forêt. Alors à ce moment-là, celui qui a été délivré de la forêt se tourne vers le guide et lui dit « Eh bien, paye-moi, j'ai obéi à tout ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai servi. » Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas ? Vous avez compris un peu là ? Voilà. C'est exactement comme si au jugement dernier, on va dire à Dieu « Eh bien, maintenant le salaire. J'ai obéi à toutes les consignes. J'ai exécuté les ordonnances. » Oui, un peu le problème. Alors, bien sûr qu'il y a une sanction. Le problème, c'est le problème du salut. La sanction, c'est le salut. Et en fait, il s'agit ici de la définition de à quelles conditions l'acte moral est authentique. Et là, j'emploie intentionnellement un vocabulaire philosophique très précis, parce que dans l'histoire de la philosophie, le philosophe qui a posé le problème de cette manière, c'est Kant. C'est un problème kantien que je vous pose. Ok ? À quelles conditions l'acte moral est authentique ? À quelles conditions l'acte moral est authentique ? À quelles conditions l'obéissance au devoir est une vertu ? C'est à la condition de la bonne volonté. Ça veut dire, si c'est moi qui veux ce que la loi veut, alors c'est kasher, si j'ose dire. Mais tant que je suis encore en apprentissage d'obéissance, je ne suis pas encore autonome vis-à-vis de la loi. La loi morale s'adresse à moi de manière, j'emploie un mot un peu barbare, mais je vais expliquer, hétéronome. Elle me parle de l'extérieur de ma conscience. Tant que ce n'est pas moi qui veux ce que la loi veut, est-ce que l'objet de la loi est réalisé ? Alors encore une fois, il y a un premier stade. Et c'est C'est authentique au niveau du comportement. J'ai fait ce que la Torah m'a demandé, même si j'ai une résistance, même si ma nature, même si mon moi profond n'est pas d'accord. Mais au moins je l'ai fait. C'est un premier niveau. Mais ce que la Torah cherche, c'est que, effectivement, je veuille moi ce qu'elle veut. Alors, vous voyez la tâche de Moïse ? Faire que les Hébreux qu'il doit éduquer, veuillent par eux-mêmes ce que la Torah réclame. Voilà, si j'ai réussi à vous faire comprendre ça, on a compris le verset. Daber el ben Israël, veikru el echa, que eux apportent pour toi. Est-ce que c'est clair ? Et la preuve, c'est la fin du verset. Voilà de qui vous prendrez mon offrande ? De celui qui est porté par son cœur à donner l'offrande. Voilà, c'est bien clair encore jusque-là. Après je verrai vos questions. C'est d'abord ce que je voulais mettre en évidence. La grandeur de Moïse et l'importance de Moïse. C'est-à-dire, c'est un médiateur, mais qui ne réussit que lorsqu'il s'efface complètement. Voilà, il est chargé de faire que Israël veuille par lui-même ce que la Torah a à leur réclamer. Est-ce que c'est clair ? Donc, quelle est la question ?
J'ai deux questions là. Ça veut dire ce qu'on ne comprend pas bien. Le fait que Dieu s'adresse à Moïse et pas à Israël, est-ce qu'on peut dire que c'est pour lui donner une certaine latitude ? C'est-à-dire que quand Dieu parle, on n'a pas le choix, il faut faire. Le fait que ce soit Moïse qui est un homme qui intervienne, ça permet à Israël de choisir de faire ce que Moïse dit. Ça lui donne une liberté.
Tu veux dire...
et la deuxième chose, c'est...
Attends, une chose à la fois. Tu veux dire d'avoir le mérite de cette liberté. Oui, c'est exact. C'est exact, c'est exactement. Je vais te dire à quoi ça peut être attaché. Vous connaissez ce que dit la Gemara, qu'au pied du Sinaï, les Hébreux ont accepté la Torah sous la contrainte. Quelle contrainte ? La contrainte de la révélation. Quand Dieu se révèle, on n'est pas libre. Et par conséquent, ce qu'explique ce Midrash, que Dieu a imposé la Torah au Sinaï, c'est le fait que le seul fait de se révéler prive de liberté celui devant lequel Dieu se révèle. Et c'est pourquoi la Gemara ajoute que c'est autant Bimé Hajorj, autant d'Assuérus, c'est-à-dire autant d'Esther et de Mardoché, qu'il s'avère que les Hébreux avaient vraiment accepté la Torah au Sinaï. Pourquoi ? Pourquoi le temps d'Assuérus ? Vous répétez la question, mais j'attends la réponse.
La fin de la révélation.
Le temps de la Megillat Esther, c'est le temps de la fin de la contrainte de la révélation. Tant qu'il y avait les prophètes, tant qu'il y avait la prophétie, on ne peut pas ne pas prendre acte qu'il y a une contrainte de l'évidence. C'est lorsque l'évidence se cache, qu'il se dévoile, si on est libre ou pas. Bon, ça pourrait être dit de manière différente, mais je crois que l'idée est claire sur ce problème. Et quoique c'est pas si simple, parce que Moïse a déjà, comment dire ça en français, a déjà le charisme reconnu que quand c'est lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Shiloucho, chez la dame Kemoto. Le peuple sait très bien que si Moïse parle, c'est Dieu qui parle. Et c'est pourquoi je préfère revenir un peu à la manière dont je l'ai dit. Il faut que Moïse lui s'arrange pour que vraiment. C'est pas parce qu'il l'a demandé qu'ils l'ont fait. Je vais ouvrir une parenthèse un peu de linguistique. Vous avez certaines mitzvot qui sont introduites par l'expression Tzav et Bene Israël. Tzav et Bene Israël. D'autres mitzvot qui sont introduites par l'expression Tzav et Bene Israël. Quelle est la différence? Tzav, c'est transmettre un tzivul, une mitzvah. Alors, je traduis, Tzav el ben Israël ordonne aux enfants d'Israël. Tandis que Tzav et ben Israël, ça indique, donne une éducation, une formation aux enfants d'Israël, formulée de cette sorte qu'ils fassent ce qu'il faut faire. Il y a une différence entre donner des consignes et donner une éducation qui fait que le résultat vient de celui à qui on a donné l'éducation. Alors, c'est peut-être plus clair comme ça. Je crois que c'est peut-être mieux de le dire comme ça, plutôt. Parce qu'encore une fois, j'y ai pensé au moment où j'avais fini de te répondre. Malgré tout, la présence de Marie, c'est la présence de Dieu. Donc, quelle est la deuxième question ?
Chez Mignoc, qu'on
ne
comprend pas, par exemple,
oui.
Manger du porc ou ne pas manger du porc, et des choses comme ça. C'est des choses qu'on
n'aurait
pas trouvées si la Torah.
À quoi tu te réfères ? À ce que dit la Rambam dans son Prakim ? Tu veux dire que ça fonctionnerait plus, cela ?
Non, je veux dire que ça fonctionne la loi morale, mais pas toute la catégorie de mitzvot.
Quoi ça ? Le fait que ça vienne de soi-même ?
Oui.
Je ne crois pas. Il faudrait reprendre ce texte du Rambam, d'ailleurs. Mais par le fait que nous avons beaucoup de références qui disent que toute la Torah aurait pu être connaturelle à l'homme, mais après la faute du premier homme, elle nous devient étrangère. Vraiment toute la Torah. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire un lien direct. D'autant plus que ce n'est qu'à travers l'éducation de la Torah que ces mitzvot dites tzichliot nous paraissent comme évidentes. Mais lorsqu'on fait une étude au fond, on s'aperçoit que c'est conventionnel. Il y a un consensus que, par exemple, ne pas tuer, ça va de soi. Mais ça ne va pas de soi du tout. Hein ? Ça ne va pas de soi du tout. Vous avez énormément de systèmes de philosophie morale où une telle interdiction n'a pas sa place. Indépendamment dans la réalité, mais par exemple l'exemple que j'ai l'habitude de donner parce que pédagogiquement c'est important, quand vous avez un commandement comme kaved et amicha vetimecha, alors on a tendance à dire, mais ça je crois que c'est très élaboré dans une époque de mode culturel, de civilisation très très sophistiquée. Alors la réaction c'est de dire honore ton père et ta mère, regardez comme la Torah est rationnelle, comme la Torah est normale. Mais ce n'est pas du tout naturel et rationnel et normal. C'est exactement le contraire. C'est parce que la Torah sait qu'il serait naturel que ce soit le contraire, qu'elle impose que l'on honore ses parents. C'est juste le contraire. Je ne sais pas si c'est clair. Et pourquoi la Torah nous dit ne tue pas ? Parce qu'elle sait que c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la nature, si j'ose dire. Bien. Alors voilà, il nous reste quand même un quart d'heure, je voudrais vous mettre en évidence quelque chose d'important. À propos d'une des questions de Mefarshim, pourquoi n'y a pas écrit Veitnou li Trouma, mais Veikrou li Trouma ? D'abord, Ben Israël, Veikrou li Trouma. Alors je ne rentre pas dans tous les Midrashim qui, a posteriori de la question qu'on m'a posée, vont enrichir le sens. Mais on s'attendrait à ce que le verset 10 parle aux enfants d'Israël et qu'il me donne une terouma, pas qu'il me prenne une terouma. Vous avez bien compris la question ?
Oui.
Qui peut répondre à ça ?
Parce que tout lui appartient, on n'a pas besoin de lui donner. Tout lui appartient.
Vous savez, la Gemara a déjà répondu à cela. La Mishnah a déjà répondu à cela. Tenlo, Michelo. Quand tu lui donnes, c'est de ce qui lui appartient que tu lui donnes. Mais ça ne répond pas à ma question. Non, c'est pas à ce niveau-là que la question se pose. C'est une question de forme même du texte. Il s'agit que la trouma soit donnée à Moïse au nom de Dieu, pour Dieu. Regardez ce que dit Rashi. Li, regardez bien. Li, lishmi. Bien. Il faut apporter la trouma à Moïse, pas à Dieu, mais pour Dieu. Pour. Je vais prendre le début de la parasha de Vayakhel. Nous avons le même enseignement, mais formulé de manière différente. Vous allez prendre le chapitre 35, au verset 4, dans la parasha de Vayakhel. Et Moïse s'adressa à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant voici la chose que Dieu a ordonnée en disant verset 5. J'attends que vous ayez le verset sous les yeux. Verset 5 du chapitre 35. L'amadé est Kechou meitechem teruma l'asher. Prenez de votre part Kechou, et là il y a vraiment Kechou, il n'y a pas Veichou. Prenez de votre part une teruma pour Hachem. Vous voyez la différence de formulation. Dans notre verset à nous, dans Truma, il y a Daber ben Israël, Veichou li truma meit kolish asher ibemenu livo. Par aux enfants d'Israël, et qu'ils prennent pour moi, de la part de tout homme qui est porté par son cœur, une terouma. Dans Vayakel, la formulation change. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, prenez de vous-même, pas de tout homme qui. Quelle est la différence? Je vous réponds tout de suite. Et pourquoi surtout il y a cette reprise du même commandement sous une forme différente? Je vous indique tout de suite, entre-temps, il y a eu la faute du Vaudor. Ça veut dire que primitivement, le projet, c'est que l'offrande pour construire le tabernacle, donc le Mikdash, devait être donnée par l'égoïme à Israël. Mais Koli, Shachel, Beben, Lubo, Tikro et Teumati. Israël reçoit la consigne de prendre de tout homme du dehors d'Israël qui sera porté par son cœur l'offrande pour construire le Bet HaMikdash pour l'humanité. Entre-temps, il y a eu la faute du Vaudor. Alors, la formulation du commandement change. Prenez de vous, pas des autres. Pourquoi? Vous avez compris la différence? Ce que je cite là, c'est un enseignement du Zohar. Eh bien, parce que, entre-temps, il s'est avéré que ce qui est pris de l'extérieur risque de devenir une idole. Tout simplement. Mais voilà ce que je voulais ajouter à ce niveau-là. Dans tous les cas, je reviens au principe du début. Quelles que soient les deux formulations, il faut que l'initiative de l'obéissance à la loi vienne de manière autonome pour que la loi soit satisfaite et non pas de manière extérieure. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Alors, prenez le verset 5. Ensuite, la Torah va énumérer les différents matériaux qui vont entrer dans cet ensemble des offrandes qui sont nécessaires à la constitution du tabernacle. Bien entendu, chacun de ces termes par lesquels ces différents matériaux sont indiqués a un sens pour lui-même. Mais on arrive au verset 5, qui est un verset extrêmement important. « Ve'asu li mikdash, ils me feront un sanctuaire, ve'shachanti ve'tocham, et je résiderai parmi eux. » Alors je vous cite l'explication classique qu'il faut quand même rappeler. C'est le verset 8, pardon, pas le verset 5. C'est moi qui vais mal. « Ve'asu li mikdash, ve'shachanti Betocham. » Non, alors là je vous cite Amina. Rachid ne cite pas, attendez une minute. Oui, l'enseignement qui est donné à ce sujet, c'est Betocho lo Nehemar et la Betocham. Il n'est pas écrit « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en lui, le sanctuaire », mais « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux ». C'est bien clair. Hein? Quelle est l'importance de cet enseignement? Hein? Non, c'est dans l'ensemble du peuple, c'est sûr. « Verasu li mikdash vesharati betocham » Le Shachanti renvoie à la notion de Shrina. C'est-à-dire, la Shrina sera en Israël si Israël fait un Mikdash. Vous avez précisé ici quelque chose d'important. Il ne faut pas utiliser cet enseignement pour dire le temps n'a pas de valeur, le temps n'a pas d'importance. Au contraire, pour que la Shrina soit en Israël, il faut qu'il y ait un Mikdash. C'est le pshat du verset. Ve'asuli Mikdash, az ve'shachanti ve'tocham. D'où l'expression du Mishkan qui va définir le tabernacle qui est la préfiguration provisoire dans les 40 ans du désert de ce que sera le Beth Amikdash par la suite à Jérusalem. Bien, il nous reste quelques instants si vous avez encore une question. Si tu veux, si on a le temps, parce que...
À la fin du cours, ce qu'a paracha c'était, quelqu'un vous a demandé, si vous êtes demandé, s'il y avait eu l'équivalent de 10 plaies sur l'Égypte dans les 50 foraines.
Oui, c'est ça.
Et votre réponse avait été, ils ont des yeux une fois point.
Je n'en parle pas. Ah, oui. Non, ça m'a fait...
C'est
toi qui...
Je commence à voir, ça va.
Oui, en fait, c'est une réponse d'analogie formelle, disons. Effectivement, il faut d'abord se rendre compte d'une chose. C'est qu'au temps de la sortie de l'Égypte, il y a eu intervention de Dieu dans l'histoire. Mais ce que le texte témoigne, c'est que cette intervention a été catastrophique pour le monde. C'est une catastrophe, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y a effectivement quelque chose d'analogue qui accompagne les temps de fin d'exil. Donc, je ne sais pas si c'est la température qui a changé. Bon, alors là, comme je vous l'ai déjà annoncé, je suis encore obligé de voyager. Par conséquent, le prochain cours avec moi aura lieu le mercredi qui suit Pourim. Mais d'ici là, vous avez deux cours qui seront assurés. Par conséquent, vous venez étudier la Torah et pas autre chose. Alors, à bientôt et passez un bon Pourim.